Chapitre 27. À force de redouter le temps, les hommes finissent dévorés par le temps. Si l'homme veut survivre, il lui faut apprivoiser le temps. Mais le temps ne se laisse pas apprivoiser facilement. Son appétit va sans cesse grandissant. Extrait d'une chanson populaire de Soho, Londres. Cité unifiée de Nilopa. Le drone se stabilisa au-dessus de Ganesh et Dava. Les canons courts de ses mitrailleuses saillaient de sa coque renflée. Une première rafale en jaillit, sèche, rageuse. Ganesh lévita d'un saut de côté en emportant Ava avec lui. Les balles soulevèrent des brins d'herbe déchiquetés et des éclats de terre. Le drone se décala de quelques centimètres pour ajuster le tir. Mais Ganesh, d'un bond, sortit de la ligne de mire. Le grésillement pourtant léger du drone domina quelques instants le fracas des bombes. Contrôlé par sa biopuce, Ganesh se déplaçait de manière à ne jamais déclencher les salves de l'appareil. Les pieds d'Ava ne touchaient plus le sol. C'était une sorte de danse à trois, où les humains devançaient de quelques dixièmes de seconde les initiatives de l'engin volant. Au bout de quelques minutes de cet incessant ballet, le drone reprit un peu d'altitude avant de s'éloigner sous les branches des arbres, comme s'il avait renoncé à résoudre l'énigme posée par ses insaisissables cibles. Guidé par sa biopuce, Ganesh fonça vers l'extrémité de l'allée, sortit rapidement des limites de l'ancienne cité, traversa une forêt d'arbres pétrifiés et marcha encore à travers une lande avant que la fatigue ne lui tombe soudain dessus et ne le contraigne à reposer à va au sol. Sa biopuce s'était désactivée, l'effet MDC estompé. Une douleur vive lui perforait le cerveau. Livide, Ava lança un coup d'œil en arrière. « Putain, c'est un miracle qu'on ait pu échapper à ce merdier. »« Ma biopuce, » souffla Ganesh. « Elle a repris le contrôle de mon corps. C'est elle qui a choisi les passages, comme si elle était reliée à l'intelligence artificielle des drones. » Le bombardement de la cité se poursuivait, évoquant un fracas d'orage lointain. « Je croyais que tu étais hors de portée des matrices, » reprit Ava. « Les relais satellitaires, à mon avis, ils fonctionnent de temps en temps. On fait quoi maintenant ?»«
Ce qui était prévu.
On retourne à la cité et on essaie de prévenir les autorités. »«
De quoi ? On n'a aucune certitude. On va nous prendre pour des paranoïaques, des conspirationnistes. »
Ganesh, dont les jambes flageolaient, dut prendre appui sur un tronc d'arbre pour rester debout. La douleur s'était assourdie sous son crâne.
« Ça va ?»
Les formes devinrent floues autour de lui. Il croisa le regard inquiet d'Ava au travers d'une brume soudaine.
« Ça me fait ça après chaque MDC, » répondit-il.
« MDC ?» Ganesh se redressa et lutta quelques secondes contre la sensation de vertige. « La prise de contrôle de la biopuce ?» Le simple fait de parler lui réclamait beaucoup d'énergie.
Il me faut un temps d'adaptation pour revenir en mode normal. Ce temps s'allonge à chaque fois. Comme si les connexions entre mes synapses étaient de plus en plus difficiles.
Je comprends maintenant comment tu as pu dérouiller les types qui ont essayé de me violer à New York. J'avais jamais entendu dire que les biopuces pouvaient prendre des initiatives pareilles.
Moi non plus. Elles semblent parfois douées d'une intelligence propre et me dominent entièrement.
Putain, mec, c'est flippant! Elle désigna d'un geste du bras la ville soumise au bombardement des drones.
« Je comprends aussi pourquoi ceux-là se sont débarrassés de leur biopuce. »
Ganesh hocha la tête. « Nous payons très chèrement notre désir de sécurité. » La pluie tomba de nouveau, drue, rageuse. Cherchant un abri, ils repérèrent un hangar métallique à la toiture en partie effondrée. Ils parvinrent à s'abriter des gouttes en se faufilant entre les carcasses d'engins agricoles mangés par la rouille. Ava fixa pensivement les trombes qui tombaient autour d'eux et grossissait les mares débordant déjà des anfractuosités du sol.
C'est arrivé quand, les biopuces ?
Juste après la création des cités, répondit Ganesh. J'ai étudié la période. La terreur était telle à la fin de la Grande Guerre qu'elles se sont imposées comme le seul recours. La seule façon de sélectionner et de contrôler les populations survivantes.
Qui les a conçues et fabriquées ?
Plusieurs entreprises de biotechnologie qui ont fusionné en une seule basée à Paris, le CIA, le Centre de l'Intelligence Artificielle.
Il a ensuite été placé sous le contrôle direct des maires. Ava frissonna et alluma une nouvelle cigarette.
« J'ai l'impression qu'on est tout proche de la sortie, » murmura-t-elle d'une voix sourde. « Je parle pas de nous deux, mais de l'humanité. »
« Quelle importance dans le fond. D'autres espèces ont disparu avant nous. Pourquoi échapperions-nous à la règle ?»«
Nous pouvons peut-être essayer d'empêcher ça. »
« À quoi bon ?
Tu as envie de disparaître, toi ?
Quel intérêt de vivre dans ce monde ?»«
Ça, par exemple. »
Il se pencha sur elle et l'embrassa avec une autorité mêlée de douceur. Elle répondit à son baiser après un instant de surprise. Le désir embrasa Ganesh avec une puissance, une violence qui le surprirent.
« Romantique, l'endroit où tu m'as emmené, » chuchota-t-elle avec un sourire. « Je savais que ça te plairait. »
Ils se retrouvèrent, sans trop savoir comment, contre la cloison métallique du fond du hangar, dévêtus, enchevêtrés, pour une étreinte aussi brève que violente, presque animale. Les ongles d'Ava se plantèrent dans le dos de Ganesh lorsque la vague l'emporta. Ils restèrent un long moment l'un contre l'autre, essoufflés, étourdis. Puis, elle se détacha délicatement de lui, récupéra ses vêtements éparpillés sur le sol et les épousseta avant de les enfiler.
« J'ai pas de tenue de rechange, » lança-t-elle avec un sourire.
Ganesh se rhabilla à son tour. Elle vint se blottir dans ses bras.
« Fais pas chaud. »
Ils attendirent la fin de l'averse pour se remettre en chemin. Repérant la position du soleil malgré les nuages bas et noirs, ils suivirent la direction de l'ouest. Le sol, par endroits imbibés d'eau, les contraignait à d'importants détours. Les croassements nourris de corbeaux les avertirent 1 kilomètre à l'avance qu'ils s'approchaient d'un nouveau charnier. Les charognards s'envolèrent dans un lourd bruissement d'ailes, décrivant des cercles au-dessus de dizaines de cadavres ensanglantés, à l'orée d'une forêt. Contrairement aux transfuges de la cité en ruine, les corps difformes et vêtus de hardes avaient l'air de squelettes habillés de peau. Certains d'entre eux étaient couverts de poils de la tête aux pieds. Ils avaient été rassemblés à la lisière de la forêt avant d'être criblés de balles.
« Des Orcites !» souffla Ava, interloqués par leur maigreur et leur aspect bestial.
Ganesh inspecta les environs, ne distingua aucun mouvement, aucune ombre entre les troncs et les branches. Des vagissements et des grognements retentirent soudain, provenant du cœur de la forêt. Ava tira le pistolet récupéré dans les souterrains, et Ganesh s'arma de son taz. S'orientant au bruit, ils s'enfoncèrent dans la végétation et découvrirent une femme qui luttait contre 2 animaux, probablement des chiens. Ces derniers tentaient de lui ravir le nourrisson qu'elle serrait dans ses bras.
« Prends celui à ta droite !» fit Ganesh.
Ava tira et toucha l'animal au poitrail. Ganesh pressa à son tour la détente du taz et atteignit l'autre chien au flanc. Les deux fauves s'affaissèrent sur le côté, l'un ensanglanté et inerte, l'autre secoué de spasmes. La femme se releva et contempla ses 2 sauveurs d'un air effaré. D'une maigreur maladive, comme les corps entassés à l'orée de la forêt, elle portait une robe de peau grossièrement taillée et cousue. De la terre séchée et verte, maculait ses longs cheveux noirs et ses sourcils épais. Son nourrisson hurlait sans interruption.
« Vous me comprenez ?»
demanda Ganesh. Elle acquiesça, d'un mouvement de tête après un moment d'hésitation.
« Que s'est-il passé là-bas ? Qui a tué tous ces gens ?»«
Les cavaliers !» bredouilla-t-elle.
« Comment leur avez-vous échappé ?»
Elle désigna la forêt d'un mouvement de menton.
« J'étais là-bas. »
Ganesh comprit que la femme venait tout juste d'accoucher, que le nourrisson encore luisant de liquide amniotique était un nouveau-né. Les tueurs l'avaient épargné, soit parce que leur système de repérage était faillible, soit parce qu'ils estimaient que, seule avec son bébé, elle n'avait aucune chance de survivre dans le pays Orcite.
Vous avez vu ce que vous appelez les cavaliers ?
Elle fronça les sourcils, éprouvant visiblement des difficultés à comprendre. Puis, elle finit par répondre.
« Oui, à travers les feuilles.
Ils étaient nombreux. »
Elle leva une main.
« Autant que mes doigts. »
Une 10aine de cavaliers avait suffi à massacrer une population de plusieurs centaines d'hommes et de femmes. Le chien frappé par l'onde du Taz cessa de trembler et s'immobilisa.
« Qu'est-ce qu'on fait d'elle ?» demanda Ava. « Si on la laisse seule dans cette forêt, elle ne tiendra pas un jour. »
Les préoccupations humanistes d'Ava étonnèrent et ravirent Ganesh. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse faire preuve de compassion envers une horsite. La première analyse morphopsyché de sa biopuce l'avait induit en erreur. Il devait réapprendre à se fier à son intuition et perdre l'habitude de juger.
« Elle ne pourra pas non plus pénétrer dans la cité, » objecta-t-il.
« Les filtres ne la laisseront jamais passer.
Essayons au moins de la mettre à l'abri avant de rentrer. »
Ganesh observa le ciel entre les frondaisons ajourées. « La nuit ne va pas tarder à tomber.
On a le temps, personne ne nous attend. »
La pensée d'Emmy le traversa. Il prit conscience qu'il n'éprouvait plus rien pour elle, que son cœur n'avait jamais vraiment battu pour elle, qu'elle s'était éclipsée de sa vie bien avant sa disparition. L'expérience fulgurante qu'il venait de vivre avec Ava continuait de l'éblouir.
« D'accord. On va essayer de lui trouver un refuge relativement sûr. »
Ava le remercia d'un sourire.
Avez-vous déjà visité les serres nourricières des cités?
J'y suis entré une fois, par hasard, profitant d'une attaque de plusieurs clans coalisés qui avaient réussi à disperser les troupes chargées de surveiller les serres de Nilopa.
J'ai été sidéré par ce que j'y ai découvert. Imaginez, d'immenses bâtiments aux toits et aux cloisons transparentes, renfermant des cultures qui s'étendent sur plusieurs hectares. Ou encore, abritant d'immenses troupeaux de bovins, d'ovins, de porcins et de volailles. Certains d'entre eux sont équipés de lampes qui permettent d'accélérer la croissance des végétaux et des animaux. La matière transparente étant incassable, les clans assaillants avaient attendu que les portes s'ouvrent pour lancer leur attaque, piller une petite partie des gigantesques réserves amassées dans les silos et les caves frigorifiques, et tuer la plupart des citadins qui travaillaient là, reconnaissables à leurs combinaisons, leurs bottes et leurs charlottes blanches. J'ai croisé des bandes éparses de pillards qui ne m'ont prêté aucune attention. Et poussé par la curiosité, j'ai remonté l'un des passages souterrains qui reliait les serres à la cité. Les tapis roulants qui convoyaient les marchandises d'un endroit à l'autre s'étaient immobilisés. Je suis tombé, 2 ou 3 kilomètres plus loin, sur un sas métallique infranchissable et j'ai compris que la cité, prise de court par l'offensive des clans, avait verrouillé ses accès en attendant d'organiser la riposte. J'ai rebroussé chemin et j'ai pris de quoi survivre quelque temps avant de sortir des serres et de reprendre mon errance dans le pays hors-site.
Les toits et les cloisons des immenses bâtiments qui se dressaient dans le lointain s'emplissaient de l'obscurité naissante. La femme hors-site les avait suivis en maintenant un intervalle d'une dizaine de mètres. Ils n'avaient pas croisé d'êtres vivants depuis leur départ de la forêt. Le vent avait chassé les nuages et ouvert dans le ciel des trouées déjà tapissées d'étoiles. Des formes claires remuaient dans la pénombre. Des animaux poussant des cris effrayés s'étaient dispersés dans les champs environnants, vaches, moutons, porcs.
« On dirait que les serres se sont ouvertes, » dit Ganesh.
« Comment tu sais que ce sont des serres ?» demanda Ava.
« Tu y es déjà venu ?»«
Non, mais j'ai vu des reportages là-dessus. »
Armes en main, ils s'approchèrent des bâtiments, bordés d'arbres protecteurs aux feuillages épineux. Des vaches blanches s'enfuirent à leur approche. Des lampes suspendues éclairaient le premier bâtiment, dont les portes grandes ouvertes claquaient contre les parois transparentes. La femme hors-site, visiblement terrorisée, jetait de fréquents regards par-dessus son épaule. Elle n'avait pas prononcé un seul mot durant le trajet. Seuls des gémissements sourds s'étaient échappés de ses lèvres closes. Les cheveux fins et bruns de son nouveau-né dépassaient d'un repli de sa robe de peau. Ganesh observa l'intérieur de la serre par la paroi transparente et ne constata pas les désordres caractéristiques d'une attaque hors-site. Il avait visionné des images d'archives de serres prises d'assaut par les pillards. Il ne se contentait pas de s'emparer des réserves alimentaires. Ils dévastaient tout sur leur passage. En revanche, des corps vêtus des tenues blanches traditionnelles des agriculteurs jonchaient les allées entre les rangées d'arbres fruitiers et de ceps de vigne. La femme hors-site hurla. Ganesh se retourna, le canon de son taz pointé devant lui. Elle fixait avec horreur son bébé levé à hauteur de sa tête.
proféra une succession de sons gutturaux, puis posa avec délicatesse le nouveau-né sur le sol et le contempla quelques secondes d'un air désespéré, avant de s'enfuir dans la nuit naissante.
« Revenez !» cria Ava.
La silhouette de la femme Orsite se fondit dans l'obscurité. Ava s'avança vers l'enfant, se pencha, l'examina un moment, avant de secouer la tête.
« Il est mort, » murmura-t-elle.
Elle n'aurait pas pu le nourrir de toute façon, elle n'avait que la peau sur les os. Ava se releva et vint poser sa tête sur l'épaule de Ganesh.
On dirait que la terre est devenue une immense morgue, qu'il n'y a plus de vie nulle part.
Une tristesse infinie imprégnait sa voix. Ganesh leva les yeux sur le ciel qui se tendait d'un voile nocturne. Il eut lui-même l'impression désespérante qu'une nuit éternelle tombait sur le monde.
Pourquoi m'avez-vous épargné? Je vous rappelle que je ne tiens pas à la vie.
Vous pouvez encore nous être utile.
Je ne vois pas en quoi.
Les ombres s'étaient mises à l'œuvre avec une redoutable efficacité. Des millions de nouvelles biopuces avaient été fabriquées en quelques heures et directement livrées au domicile de chaque citadin, avec la seringue quantique qui permettait de se l'injecter soi-même. La campagne d'information orchestrée par le nouveau pouvoir avait ramené le calme dans la cité. La nouvelle biopuce, plus performante, plus sécurisante, réduirait considérablement la marge de manœuvre des ombres et permettrait de résoudre rapidement le fléau. Les matrices avaient confirmé que la quasi-totalité de la population avait procédé au changement. 98,87%. Caton avait admiré la logique des ombres. Plutôt qu'organiser d'interminables séances collectives, elle s'était débrouillée pour que chaque citadin fasse le travail lui-même, gagnant ainsi un temps précieux.
Des foyers d'incertitude subsistent. Nous voulons nous assurer que personne n'en réchappera.
Vous savez bien que l'ordre absolu n'existe pas. Chaque action engendre sa propre entropie.
Nous voulons réduire les risques au strict minimum. Nous avons encore besoin de vous.
Qu'ont donné les premières attaques massives dans les cités témoins?
Le taux de réussite est de 99,02%.
Que faites-vous de vos 0,98% d'échecs?
Nos nettoyeurs s'en chargent.
Ils sont fiables?
Ils quadrilleront les territoires hors site jusqu'à ce que toute vie humaine soit éradiquée de la surface de la Terre.
Caton ne put s'empêcher de frémir. Les ombres étaient passées à l'étape terminale du plan. Et il ne resterait bientôt plus une seule trace du règne humain sur la planète Terre.
Quand la vie te conduit dans des impasses, elle s'arrange toujours pour te proposer des sorties. Proverbe Orsite des bords de la mer Méditerranée. Pays Orsite.
Les hommes qui n'ont pas d'odeur, ils sont tout prêts.
Nombreux?
Je sais pas. Les heures ne me disent pas.
La peur paralysait Yosp, figé sur le sentier. Les autres s'étaient arrêtés quelques mètres plus loin. Ils n'avaient croisé personne depuis 2 jours, personne de vivant en tout cas. Des cadavres épars jonchaient le sol, criblés de balles. Les cavaliers étaient passés par là et avaient massacré tous ceux qui croisaient leur route. De l'une et les autres avaient un temps envisagé de poursuivre vers le sud, à bord d'un radeau Bartlos. Puis, ils y avaient renoncé, craignant les orages qui balayaient régulièrement le fleuve. Ils avaient subi 2 tempêtes depuis leur découverte du charnier Bartlos et avaient dû s'abriter sous des rochers en attendant que les vents et les pluies s'apaisent. En dehors de ces perturbations, aussi soudaines que violentes, le ciel restait d'un bleu uniforme et la chaleur se faisait parfois accablante. Ayant rapidement épuisé les vivres récupérés dans la cité morte, ils avaient mangé des animaux capturés par Kolb. Après avoir traversé plusieurs villages, dont les habitations de pierre ou de bois tombaient en ruine, conquises par le lierre et les ronces, ils parcouraient désormais un plateau désolé, hérissé d'arbres décharnés et de rochers tourmentés. Le fleuve se divisait en plusieurs bras par endroits, et des îles sablonneuses jaillissaient de l'eau, couvertes d'herbes frissonnantes aux panaches translucides. De l'une étudiait la végétation locale.
tentant de répertorier les plantes et de les apparenter à celles que lui avait appris à reconnaître Dandera. De temps à autre, il les mettait à macérer dans une gourde emplie d'eau et en tirait un jus noirâtre et odorant qu'il donnait à boire aux autres, en leur disant qu'il renforcerait leur défense immunitaire. Kolb lui-même acceptait d'en ingurgiter quelques gouttes, malgré leur saveur abjecte, et les dizaines de jurons qui accompagnaient chacune de ses gorgées. « Là !» Naya leva avec nervosité le canon de son pistolet et désigna les formes immobiles rassemblées une centaine de mètres plus loin sur le bord du fleuve. De même, Kolb encocha une flèche sur la corde de l'arc récupérée sur les radeaux Bartlos. Accompagné de Yosp, Delune grimpa sur un grand rocher pour observer les silhouettes grises alignées sur la rive. Des cavaliers de l'Apocalypse, aucun doute. Leur immobilité de pierre l'intrigua. Aucun d'eux ne bougeait. Ils ressemblaient à ces statues qu'on pouvait contempler sur les édifices religieux d'avant la Grande Guerre. Il les examina un long moment, guettant le moindre mouvement, le moindre signe de vie. « Les heures ne te disent rien, Yosp ?» Le petit homme secoua la tête d'un air à la fois désolé et inquiet. La chaleur leur pesait sur les épaules comme un joug. Ils redescendirent du grand rocher. « Des cavaliers !» déclara Delune. « Ils ne bougent pas. C'est le moment ou jamais d'aller les voir de plus près. » Les yeux de Kolb s'arrondirent de peur et de colère.
« T'as perdu la tête, mon gars ! Imagine pas qu'ils vont te laisser leur renifler le cul !»«
Il faut absolument savoir à qui on a affaire !» argumenta le guérisseur. « L'occasion ne se représentera pas de si tôt !»« Si tu y vas, Delune, je viens avec toi !» affirma Naya.
Delune accueillit sa proposition d'un sourire. « Pendant que nous y allons tous les deux, reste ici avec Yosp, » dit-il à Kolb.
« Et je croise les bras pendant que vous vous faites massacrer ?»
gronda le trappeur.
« T'es encore plus dingue que je croyais !»«
Justement, tu peux intervenir si ça se passe mal. Il vaut mieux qu'une partie d'entre nous reste en arrière. »
Kolb fixa d'un air désabusé son arc et sa flèche.
« Tu crois que je peux lutter contre ces tueurs avec ça ?»
Je ne crois pas, mais tu pourras au moins prendre l'initiative, fuir au besoin, et mettre Yosp à l'abri. Nous n'avons pas besoin d'être quatre pour aller les voir.
Le trappeur réfléchit quelques secondes avant de hocher la tête.
D'accord. Je m'installerai avec Yosp sur le rocher et je me tiendrai prêt à intervenir.
Le petit homme manifesta sa réprobation d'une moue.
Je veux aller avec vous.
Delune s'accroupit pour abaisser son visage à hauteur de celui de Yosp.
« Nous avons besoin de toi, de ton don. Il vaut mieux que tu restes en arrière avec Kolb. Si les heures t'avertissent d'un danger, tu hurleras pour nous prévenir. D'accord ?»
Les yeux de Yosp s'emplirent de larmes. Mais il se détourna et, sans dire un mot, grimpa sur le grand rocher. Qui peut dire ce qui serait arrivé si les portes des cités ne s'étaient pas fermées aux populations restées à l'extérieur? Si l'humanité ne s'était pas divisée? En tant que guérisseur du haut lieu, je dis que l'humanité se perd lorsqu'elle se divise, comme les membres séparés d'un corps finissent par pourrir et redevenir poussière. Je dis que l'humanité est un immense corps dont toutes les parties sont indispensables, que l'unité est la condition nécessaire pour que règne l'harmonie et la paix. Je dis que les cavaliers de l'Apocalypse ne sont que les fruits de nos divisions, qu'ils sont les matérialisations de nos pensées profondes, de nos peurs inexprimées. Chaque fois qu'un être humain en maltraite un autre, un homme, son ennemi, un fils, ses parents, une mère, ses enfants, il façonne une pièce, des rouages qui finiront par le broyer. Je dis que nous, guérisseurs du haut lieu, avons échoué à rétablir l'équilibre sur cette terre. Je dis que nous avons échoué parce que nous-mêmes avons nourri des sentiments obscurs et blessants. Nous avons semé division, souffrance, colère, rancune, n'avons pas su donner l'exemple, et avons infecté nos remèdes de nos pensées empoisonnées. Nous avons une grande part de responsabilité dans le désastre qui guette nos frères humains. Le temps est sans doute venu de nous remettre profondément en cause, de puiser au plus profond de nous pour sauver ce qui peut l'être, pour initier un nouveau cycle. Le don de guérison est, je le clame, un présent, un privilège et un devoir. Sachons nous en montrer dignes.
aucun des cavaliers ne réagit lorsque Delune et Naya se portèrent à leur hauteur et se glissèrent entre leurs rangs. La régularité, la symétrie avec lesquelles ils étaient alignés étonnaient Naya. Répartis par rang de 7, ils formaient un carré parfait, séparés les uns des autres par le même intervalle. Elle tremblait légèrement, hantée par les souvenirs de sa rencontre avec le cavalier dans le noyau en flammes. Elle redoutait par-dessus tout de croiser leurs regards, ces lueurs blanches et froides qui l'avaient couverte de frissons glacés. Mais leurs faces ne présentaient qu'une surface lisse et grise, où ne saillait aucun relief, où ne brillait aucune lumière. Même si le contact avec la crosse la rassurait, son pistolet ne lui serait d'aucun secours s'il revenait subitement à la vie. Au bout de leurs bras pendaient des pistolets mitrailleurs dont les rafales ne laisseraient pas l'ombre d'une chance aux deux intrus.
« On dirait qu'ils se sont retirés dans leur carapace !» murmura-t-elle. « Ou encore, que leurs armures sont vides !»
Elle craignit soudain que sa voix ne les réveillât. « Il n'y a peut-être jamais eu de vie à l'intérieur de ces armures !» déclara Delune.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?
Qu'elles ne sont pas habitées ? Que l'armure est la créature ?» Naya se figea, stupéfaite.
« Ils seraient des machines ?»
Des machines déconnectées. On ne peut pas expliquer autrement leur immobilité parfaite. Ils ne respirent même pas. Je comprends pourquoi Yosp disait qu'ils n'avaient pas d'odeur.
Naya les regarda avec une attention nouvelle. L'hypothèse de Delune confirmait ses souvenirs, son impression de faire face à une créature implacable, insensible, invincible.
Qui est capable de concevoir et de fabriquer des machines d'une telle perfection ? S'étonna-t-elle.
Les cités ? Répondit Delune.
Ils ont conservé et sans doute développé les technologies d'avant la Grande Guerre.
Pourquoi les cités voudraient-elles nous exterminer ?
Pas seulement nous. La population de la cité que nous avons traversée a aussi été décimée.
Pas par les cavaliers. Il n'y avait aucune trace de balles sur les corps.
Delune marqua un temps de silence avant de déclarer « La force qui les a tués est la même que celle qui commande les cavaliers. »
Ça veut dire qu'ils ne viennent pas de la cité. Suggéra Naya.
D'où alors ?
Ils rejoignirent Kolb et Yosp au pied du grand rocher. Le petit homme s'agita.
« La force ! Les heures me disent, elle vient »
souffla-t-il.
« Je vois rien dans les environs !» grogna Kolb.
« Sous quelle forme ? » demanda Delune.
« Les heures ne me disent pas !»
Il vaut mieux se cacher.
« T'en as de bonnes !» protesta le trappeur. « Y a pas beaucoup de planques dans le coin !»
« Sur le rocher !» proposa Naya.
Delune acquiesça. « On s'y allonge et on reste totalement immobile. »«
Je nous couvrirai avec les branches. »
Kolb se dirigeait déjà vers le relief.
« Il y a des buissons là-haut. »
Une fois en haut du rocher, ils aidèrent Kolb à rassembler les branches de buissons aux feuilles jaunes avant de s'allonger sur la surface rugueuse. Le trappeur les camoufla, puis se coucha à son tour et se recouvrit de branchages entrelacés. Précédée de sifflements légers, une escadre de drones surgit quelques instants plus tard. De leur fuselage jaillirent des tuyaux souples dont les extrémités s'enfoncèrent en haut du crâne des cavaliers. Des lueurs s'en échappèrent, semblables à des éclairs bleutés. Au bout de quelques secondes, les drones reprirent de l'altitude, se stabilisèrent au-dessus d'autres cavaliers et réitérèrent l'opération. Lorsqu'ils eurent terminé, ils s'éloignèrent dans un sifflement décroissant et se fondirent dans le bleu céruléen. Les cavaliers se ranimèrent tout à coup et se remirent en route, dans un ordre parfait, en suivant le fleuve.
« Ben ça !»
murmura Kolb après qu'ils eurent disparu dans le lointain.
« On aurait dit des oiseaux donnant la béquille à leurs petits. »«
Ils ont besoin d'énergie, comme toutes les machines, » déclara Delune.
Les engins volants la leur ont fourni.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?
Couper la source d'énergie.
T'as une idée de l'endroit d'où elle coule ?
Les engins volants sont partis vers le sud, comme les cavaliers. Il n'y a qu'à continuer dans cette direction. On finira bien par tomber sur quelque chose. Le soir, ils bivouaquèrent au bord du fleuve, dans l'abri naturel formé par deux rochers, appuyés l'un sur l'autre. Tandis que les deux lapins capturés par Kolb grillaient sur les braises et que Yosp somnolait,
Naya et Delune allèrent se baigner dans une crique abritée des regards. La vue du corps blanc de la jeune femme éveilla le désir du guérisseur. Ils s'aimèrent en partie dans l'eau et en partie sur la berge, Naya retenant ses gémissements pour ne pas être entendue de Yosp et de Kolb. Elle appréciait de plus en plus la douceur de Delune, mêlée de sensualité animale. Elle découvrait le plaisir avec lui, ou plutôt les variations infinies du plaisir, même si paradoxalement les choses paraissaient simples, évidentes. Elle n'aurait jamais pensé qu'un homme puisse se montrer aussi attentif. Leurs corps entremêlés vibraient au même rythme, comme s'ils se fondaient l'un dans l'autre, comme s'ils battaient d'un seul cœur, d'un seul souffle. Des cris les tirèrent de leur ravissement. Ils se rhabillèrent en hâte. Naya déverrouilla le cran de sûreté de son pistolet. Ils ne trouvèrent ni Kolb ni Yosp, ni aucun effet de leurs deux compagnons sur les lieux du bivouac. Les lapins continuaient de rôtir sur leur lit de braise, en répandant leur agréable fumée. Ils explorèrent les environs baignés d'encre nocturne. Aucune trace du trappeur et du petit homme. Personne ne répondit à leurs cris. Comprenant que leur recherche était vaine, ils revinrent au bout d'un long moment près du feu. Les lapins étant carbonisés, ils durent débarrasser la viande de son épaisse croûte noire pour pouvoir manger.
« Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, » dit Naya. « Ou ils n'auraient pas crié. »«
C'est Yosp qui a hurlé, » précisa Delune. « J'ai cru reconnaître sa voix. »«
Qu'est-ce qui a pu se passer ?»«
Ils ont peut-être été enlevés par une tribu. »
Ou par les cavaliers ?
Je crois pas. Les cavaliers ne font pas de prisonniers. Ils tuent et abandonnent les corps sur place.
Il y a des tribus dans le coin ?
Sans doute, comme dans tout le pays hors-site.
On peut pas les laisser aux mains des sauvages !
Continuer les recherches en pleine nuit ne servirait à rien. Attendons la lumière du jour. Ils se couchèrent près du feu et, rompus de fatigue, s'endormirent malgré l'inquiétude qui les tenaillait. Ils furent réveillés à l'aube par un batelier qui, les ayant aperçus, avait dirigé son embarcation vers la berge. Naya n'eut pas le temps de tirer son pistolet de sa veste. L'homme se tenait devant eux, brandissant une longue perche à l'extrémité munie d'une pointe métallique. Un grand gaillard de plus de 2 mètres aux épaules larges, aux cheveux longs et noirs, au visage grêlé, aux joues ombrées de barbe, aux yeux asymétriques. L'un, bleu et brillant. L'autre, uniformément gris et terne, vêtu d'une tunique et d'un pantalon taillé dans une étoffe brune aux mailles grossières.
« Pas très prudent de dormir à la belle étoile !»
s'exclama-t-il d'une voix rugueuse.
« J'aurais pu vous tuer 10 fois !»«
Une seule aurait suffi !» répliqua Delune. L'homme éclata d'un rire tonitruant.
« Juste ! Je vois qu'il vous reste un peu de lapin, et même plus brûlé que le cul du diable !» J'en mangerai bien un morceau, vu que je crève de faim.
Servez-vous ? L'homme ne se fit pas prier. Il s'assit sur une pierre et, de ses mains larges et puissantes, préleva un morceau du lapin que Naya et Delune n'avaient pas entamé.
Je suis sur la piste d'une bande qui enlève des gens pour les revendre à un marché de chair humaine, qui se tient sur les bords de la mer Méditerranée,
reprit-il après avoir mangé en silence pendant quelques instants.
Vous avez rien vu ?
« Nos deux compagnons ont disparu hier soir pendant que nous prenions un bain un peu plus loin dans le fleuve, » répondit Delune, « sans laisser de traces. »«
C'est la signature de ces satanés trafiquants !»
grogna l'homme.
« Ils ne laissent jamais de traces. Ils ont pris ma femme et mes 2 enfants. Je suis arrivé trop tard. Ils sont d'une discrétion à toute épreuve et se déplacent à pied plus vite que les animaux sauvages. Je les piste depuis plus de 3 semaines par le fleuve. J'ai pas encore réussi à les rattraper, mais d'après ce que vous me dites... « Je suis plus très loin d'eux. »«
Vous n'avez rien remarqué d'autre le long du fleuve ?» L'homme arracha une nouvelle bouchée de viande et la mâcha bruyamment avant de répondre.
« Si vous voulez me parler de tous ces morts, ça oui, j'en ai vu un bon paquet. À croire qu'une armée a décidé de tuer tout le monde en pays hors-site. Je suis passé dans une agglomération située à quelques kilomètres d'ici. Il n'y avait plus une seule âme vivante, ça puait la charogne. J'ai même vu une fosse pas très loin d'ici. » Pleine de centaines de cadavres sans cheveux ni poils. Vous savez quelque chose là-dessus ?
Quelqu'un semble avoir décidé l'extermination des hommes, déclara Delune.
Qui ça ?
Tout ce qu'on sait, c'est que cette entité utilise des machines déguisées en hommes, et qu'on ne peut pas faire grand-chose contre elle.
L'homme finit son morceau de viande et arracha une cuisse qu'il dévora avec le même féroce appétit.
« Ça veut dire qu'il faut que je récupère rapidement ma femme et mes enfants pour que je les mette à l'abri. »«
Je suis pas sûr que ça suffise, » lança Delune.
« Comment ça ?»«
Ces machines sont ravitaillées par des appareils volants et retrouvent les hommes où qu'ils se cachent. » »«
Les machines n'ont pourtant pas de flair. »
Delune découpa à son tour un bout de viande, le sépara en deux et en tendit une part à Naya. « Celles-là n'ont rien à voir avec les machines que nous connaissons. Nous essayons de remonter à leur source et de couper l'énergie qui les alimente. »
« Diable, voilà un projet ambitieux. Si elles sont si terribles que tu le racontes, t'as aucune chance de les contrarier. »
« La chance est minime, c'est vrai, mais nous devons la tenter. Sinon, il ne restera bientôt plus personne. » L'homme réfléchit en mangeant la cuisse de lapin. Puis il s'essuya les lèvres d'un revers de main.
« Voilà ce que je propose, mon gars. Je vous prends sur mon rafio. Vous m'aidez à récupérer ma femme et mes enfants, et vos amis par la même occasion. » Et moi, après, je vous aide à combattre ces foutues machines. Ça vous va, comme marché ?
Delune tendit la main par-dessus le foyer avec un large sourire.
Ça nous convient très bien. Je suis Delune. Et elle, c'est Naya.
L'homme serra avec vigueur la main du guérisseur.
Moi, je m'appelle Rodag. Assez perdu de temps. Faut qu'on embarque si on veut rattraper ces satanés trafiquants.